RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, il ne pratique peut-être pas le jeu le plus séduisant du top 14, oui, mais il gagne. À 6 journées de la fin de la saison régulière du championnat, les soldats roses du Stade français sont même largement en tête. 3 points d'avance sur Toulouse et surtout 11 sur le Racing. La porte d'une qualification directe pour les demi-finales est donc largement ouverte, voire plus si affinité. Le club parisien a franchi un cap cette saison avec les arrivées aux commandes de Karim Ghezal et de Laurent Labitte en provenance du 15 de France. Alors les mèneront-ils vers le bouclier que les Parisiens n'ont plus tâté depuis 2015 et ce jeu restrictif suffira-t-il à faire tomber Toulouse, Bordeaux et autres La Rochelle? Eh bien toutes ces questions nous allons les aborder aujourd'hui dans Entre les poteaux avec des poteaux réduits aujourd'hui.
Oui, lundi de Pâques.
Pendant que Wilfried Templier se gave d'agneau
de
pascal.
De chocolat.
De chocolat, c'est pas très bon pour ce qu'il a. Mmh. Heureusement, les vrais sont là. Denis Charvet, Winnie Claret.
On travaille même lundi de Pâques.
Même lundi de
Pâques. T'as mangé du chocolat?
Pas trop.
Non.
Je suis au régime.
Non, mais t'as pas vu comme il est beau, comme un Miller.
Il est fit.
Comme un astre.
Il est fit.
Alors que j'adore le chocolat.
Ah bah oui, bah
on est bien d'accord.
Qui n'aime pas le chocolat?
Et l'agneau de Pâques aussi.
Et voilà. Très bien. 14 victoires en 20 matchs, dont 6 décrochés à l'extérieur. Tout cela en ayant l'une des plus mauvaises attaques du top 14. C'est ce que l'on appelle le paradoxe parisien. Le club qui gagne sans trompette ni paillettes.
On m'appelle le soldat. Soldat rose.
On laisse à venir du Stade français. Un essai de 100 mètres. Incroyable. De la part du Fidjien Dakouaka qui a relancé de son propre but. Ensuite il a tapé par-dessus pour lui-même. Un petit coup de pied de 10 mètres. Il a récupéré le ballon mais il a traversé vraiment tout le terrain de son en but à celui du Racing. C'est peut-être l'essai de l'année en top 14.
Oh, c'est Koubakalou. L'essai du Stade français. À 30 secondes de la fin de cette rencontre, le coup de poignard.
Le Stade français, on le rappelle, qui était mené 6-0 à la pause, s'est révolté en deuxième période. Il emporte 4 points supplémentaires pour les hommes de Laurent Labitte et Karim Ghezal. Succès 22-13.
Plus que jamais leader, le Stade français enfonce le Racing dans la crise. Victoire 27-11, quatrième victoire de suite pour les Parisiens. Tout va pour le Stade français.
La sirène, les cloches de Notre-Dame, la transformation. Et ce sera terminé sur la victoire du Stade français.
Je ne sais même pas si on va gagner, mais en tout cas, on est en train de gagner la victoire du cœur. Hein.
Allez, cadeau.
Ils ont gagné la victoire du cœur.
Ouais. C'est beau ce que
c'est beau. Hein,
ouais. C'était gratuit, c'était comme ça. C'était une petite.
Dans le corps d'un homme, il y a un cœur de sportif. Il y a un cœur d'homme.
Ah, oh, c'est beau.
Très bien. Alors, nous devions avoir Laurent Labitte aujourd'hui comme invité. Malheureusement, un petit impératif qui l'empêche d'être avec nous. Ça, là, il n'empêche, on va pouvoir quand même discuter du cas de ce Stade français, qui, c'est vrai, je le disais tout à l'heure en introduction, est un peu paradoxal. C'est-à-dire, c'est une équipe qui gagne, qui a tout gagné, qui a gagné notamment pendant les périodes de doublons, mais qui ne montre pas grand-chose. Denis, tu vas souvent à Jean Bouin.
Bah, j'ai vu pratiquement tous les matchs.
Le Stade français, c'est vraiment un club qui compte pour toi. Comment tu juges leur saison? Franchement, elle est incroyable cette saison.
Mais il y a deux choses. Où tu parles de l'efficacité, et là, c'est les champions du monde, où tu parles d'un manque de, comment dire, de spectaculaire, on va dire. Je ne sais pas, mais c'est vrai. Vos jeux, peut-être pas, mais après, ils sont pragmatiques. Je crois que leur stratégie, elle est basée sur un paquet d'avant redoutable. Ils font un pan, comment dire, c'est un jeu assez restreint, mais en même temps, d'une efficacité incroyable. Puis bon, attention, ils vont se les chercher, les victoires. Hein. Moi, je les vois jouer. C'est pas souvent très beau, mais quand même, les adversaires, et chacun, ils se les cognent, quoi. Hein. Ouais. Ils n'arrivent pas à trouver de solution pour le Stade français.
Certains évoquent l'exemple montpelliérain, vainqueur du championnat il y a quelques années, avec le même genre de jeu, Winnie, un peu restrictif.
Laborieux. Ouais. Bah oui, mais quelque part, ça veut. C'est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que ça vient d'abord d'un énorme travail, un travail qui est effectué par les avants. On a une conquête hyper dominante du côté du Stade français. Mais c'est un travail qui manque un peu de cette spontanéité, créativité qui fait tout le sel du rugby avec des trois quarts un peu flamboyants. Ça, c'est sûr qu'on ne l'a pas. Et pourtant, Denis, rappelle-toi, c'était quand même l'une des promesses de Laurent Labitte quand il est arrivé après la Coupe du Monde en tant que directeur du rugby. C'était de donner justement à ce Stade français un peu plus que son simple jeu d'avant, qui est conquérant depuis quelques saisons déjà. Bon, ça, on ne l'a pas encore trouvé.
Non, mais le paradoxe, c'est effectivement qu'on s'appuie sur une des avants conquérants, qui est redoutable même, il faut le dire, avec un banc qui fait toujours la différence.
Ouais, notamment
très
les frères
de première ligne, de première ligne incroyable. Ça, secteur de la Méditerranée, tu n'as pas parlé, mais qui ils font des ravages en mêlée fermée. Ouais. Et après... J'ai envie de dire, oui, c'est un peu, tu parles de paradoxe, c'est un paradoxe parce que quand normalement les avants avancent, dominent, sont dominateurs, normalement les trois quarts, mais c'est plus facile. Normalement, tu as plus de facilité à jouer, à rentrer dans les intervalles, à prendre des intervalles et jouer.
Oui, c'est vrai.
Et paradoxalement, ils jouent plus occupation de terrain, donc ils sont plus sur la dépossession. Donc est-ce que ça vient aussi du fait qu'il a passé 4 ans en équipe de France avec beaucoup de dépossession? Je le pense aussi. Donc il s'est dit, bon, mais je ne pète pas les joueurs pour pratiquer un jeu à la Toulousaine, on va dire, mais on va jouer un jeu de dépossession qui va être efficace. Et pour l'instant, ça lui donne raison.
Ouais. Et pourtant, quand tu regardes les Dakuaka, et on l'entendait là encore sur cet essai flamboyant il y a quelques semaines maintenant, où il a fait le tour du terrain pour aller aplatir l'essai. On a les Jonathan Tosson,
Etienne, il est très très bon.
Lester Etienne et Dakuaka, ouais. Ils sont deux ailiers quand même assez supersoniques. Enfin, rien que pour ça, on
même les centres, le centre anglais est bon aussi, Marchand.
Ils sont capables de faire des exploits incroyables, mais Dakuaka, de temps en temps, il bouffe un peu la feuille de match aussi. On les a vus très dominants face à Montpellier, avoir plusieurs occasions ou même face à
Lyon. Il n'a pas été bon.
Il met pas tout au fond quand même.
Absolument.
C'est un peu ce qu'il fait.
Alors Dakuaka, il est très irrégulier. Le problème, il est capable du meilleur comme du pire. Donc je pense quand même que c'est un problème d'expérience. Il est encore jeune. Il faut que ça guérisse avec le top 14. Ouais. Parfois, il est insaisissable, mais parfois, justement, il est capable de mettre un coup de pied n'importe où, n'importe comment, de faire une passe dans les chaussettes. Donc il est assez irrégulier comme garçon. Mais quand même, un talent fou. Hein. Voilà, il y a lui, on parle de Marchand, Ward. Et après, c'est vrai qu'ils ont quand même un petit point faible, même si Cocotte fait une grande saison à la mêlée.
Brad Weber, il n'est pas, selon toi.
Brad Weber n'est pas au niveau qu'on l'espère. Alors, Cocotte tient la baraque. Quand on voit le match de Cocotte au Racing, où il a été incontournable, tu peux te dire que ce garçon, il a 39 ans.
C'est l'homme des grands matchs aussi.
Il a 39 ans et Laurent Labitte me disait qu'il allait re-signer. Hein. Donc, il compte sur lui pour l'année prochaine. Donc, il va jouer une saison à 40 ans. Oui, c'est une info.
Ça, c'est une info.
Si, ils sont très contents. C'est un mec qui a une rigueur dans sa vie par rapport à son hygiène de vie qui est absolument incroyable. C'est le mec qui engueule les partenaires. Dans le quart, il les remet à leur place. Enfin, il les recadre. Il est très étonnant.
Ce qui est étonnant aussi, assez paradoxal, c'est que ce soit Morgan Parra, nouvel entraîneur.
Qui est plus jeune que lui.
Qui entraîne Rory Cocotte. Ils se sont affrontés pendant des années, tous les deux, sur le terrain. Ils étaient considérés comme deux des numéro 9 les plus pénibles du championnat, tous les deux.
En même temps, il s'éclate parce que j'ai l'impression qu'il retrouve les vertus de Castres, Cocotte. Ces vertus qui faisaient la différence, qu'ils ont fait champion de France. Et là, il cornaque ce pack finalement à sa guise. Et c'est peut-être un peu le paradoxe, c'est qu'il a justement, il s'occupe un peu de l'extérieur, de ses joueurs, de ses trois quarts. Et on aimerait davantage en fait. On est un peu frustré par le fait qu'il n'y ait pas assez d'attaques en première main, d'essayer d'envoler.
Oui, parce que Laurent Labitte, c'était quand même l'entraîneur des trois quarts du 15 de France, même si évidemment ça a été pendant des 4 années un peu le jeu de la dépossession, mais voilà, il y a quand même des promesses quand tu prends comme directeur du rugby un mec comme Labitte. Est-ce que vous trouvez que cette équipe
sans parler de Guézal, parce qu'on parle pas de Guézal
qui était, justement lui on est plus il a fait peut-être plus progresser le Stade Français de ce côté-là parce que lui il n'avait pas les mêmes attributions dans le 15 de France
avec la touche
impériale que Karim Guézal. Alors c'est pas comme si Laurent Sempere avait pas déjà fait un gros travail sur la conquête du Stade Français avant justement de permuter avec Karim Guézal au 15 de France. Karim Guézal, il est venu avec les mêmes promesses. Mais Karim Guézal, comme tout le staff, avait aussi promis, et c'est ce que je disais tout à l'heure, un jeu peut-être un petit peu plus offensif, de jouer plus tout simplement, avoir un volume de jeu ballon en main un peu plus important pour aller déployer son jeu du côté des trois quarts et pas simplement être porté par la conquête des avants. Ça, pour l'instant, on l'a pas vu. Alors que, comme tu le disais, Morgan Parra a débarqué sur le banc du Stade Français, alors que Laurent Labitte, qui était l'entraîneur des arrières du 15 de France, arrive en tant que directeur du rugby, et que Karim Guézal, il avait, rappelez-vous, quelques idées assez pas vraiment novatrice, parce que le fait par exemple de vouloir faire lancer le demi de mêlée en touche pour la finale, si on avait été en finale de Coupe du Monde, c'est ce qu'il nous avait dit après la Coupe du Monde. Donc Antoine Dupont aurait lancé en touche, des choses qui permettent d'accélérer le jeu, notamment sur ces phases-là. Et Karim Ghezal aussi a cette sensibilité pour dynamiquer.
Après, les résultats leur donnent raison. Donc, si tu veux, c'est ça un peu la problématique du moment.
Ils sont premiers du championnat.
Ils leur donnent raison, mais il y a quand même des explications à cette bonne carburation du Stade français. Il y a tout d'abord le fait, finalement, que le Stade français, à la différence des autres gros clubs du top 14, n'est que très peu donné à l'équipe nationale, et pendant la Coupe du Monde, et pendant le tournoi. Il y avait que
Paul
deux
Gabriel,
joueurs en équipe de France,
Gabriel Sekou Makalou,
il n'a même pas joué le tournoi.
Donc on a un Léo Barré,
qui arrive en fin de tournoi, Gabriel qui quitte le tournoi au bout de quelques... Voilà, ils n'ont pas donné énormément, mais on se rend compte que finalement...
Ils
ne sont pas usés.
Non, le gros
mais
collectif n'est pas usé.
Ils ne sont pas usés, et puis surtout, ils ont pu jouer à bloc les matchs de doublons.
Ils ont souffert des doublons.
La période de doublons, ils ont gagné 6 des 8 matchs, je crois, qu'ils ont disputés. C'est pas le cas par exemple du Racing qui a lui connu vraiment chemin inverse. Maintenant que tout le monde est rentré au bercail, on voit que le Stade français continue de gagner. Il l'a fait le week-end dernier à Montpellier, il l'a fait aussi face à Lyon, mais évidemment les échéances principales arrivent. Or on le sait, le Stade français depuis quelques saisons a un peu de mal dans les matchs à élimination
directe. Ils ont accumulé quand même un maximum de confiance. Tu sens quand même qu'il y a un collectif qui est bien huilé, qui s'entendent bien. On sait qu'il y a une très bonne ambiance à l'intérieur des groupes. Moi je pense que cette année ça va être très compliqué de battre cette équipe, parce qu'elle est redoutable de pragmatisme. Alors tu vas me dire Toulouse, c'est pas le même jeu, en même temps c'est pas le même banc, c'est l'effectif peut-être un peu plus dense, mais je pense que le Stade français se positionne en gros outsider pour le titre.
Le premier écueil à passer, c'est évidemment d'aller se qualifier directement pour les demi-finales.
C'est quasiment fait,
11 points d'avance sur le Racing.
Voilà, c'est ça, ils ont plus de 10 points d'avance, à part Toulouse qui est deuxième, ils ont plus de 10 points d'avance sur tout le reste des poursuivants. Donc autant dire que... Alors ils ont quand même une dernière ligne de droite
C'est costaud. Enfin c'est costaud, mais c'est un peu à mi-temps. Ils vont travailler à mi-temps puisqu'ils n'ont plus de Champions Cup. Donc là par exemple, ils n'ont pas de match avant le 20 avril. Ensuite ils font le pont du 1er mai,
ces
messieurs.
Ils ne sont pas les seuls, messieurs. Les Toulonnais aussi.
Le pont de... Oui, bien sûr. Il y a Bordeaux, Toulouse et La Rochelle. Et le Racing qui sont concernés. Mais ils ne vont peut-être plus être concernés pendant très longtemps. Enfin il y en aura quelques-uns qui vont rester sur le carreau dès le week-end prochain. Oui, alors... Raconte-nous un peu le calendrier qui attend le Stade français, Winnie.
Alors d'abord, 21e journée, réception de Bayonne. Donc là, on se dit que ça devrait être prenable quand même.
Peu de points pour être qualifié directement pour l'ennemi. Hein. Très peu de points, il leur manque pour l'instant.
Pour
être qualifié
le Stade français, là de toute façon...
S'ils battent Bayonne déjà...
S'ils battent Bayonne, ils sont quasiment assurés d'être en demi-finale. 22e journée. Clermont, ils se déplacent à Clermont. Après, par contre, ça devient costaud parce qu'on a le déplacement à Toulouse. Alors, bon, ce sera un Toulouse qui, le week-end d'avant, aura éventuellement joué les demi-finales de Champions Cup. Donc, à voir. Derrière, ils reçoivent l'UBB. Et ils partent à Castres, où Laurent Labitte retrouvera évidemment son club de cœur. Et puis derrière, dernière journée de saison régulière, ils reçoivent Toulon. Toulon qui n'est pas non plus concerné par la Coupe d'Europe, qui eux jouent la qualif. Ils viennent de faire deux matchs énormes à domicile face à Montpellier et hier soir donc à Saint-Sébastien contre l'Aviron Bayonnais. Donc attention aussi à cette dernière ligne droite avec quand même des gros concurrents dans le top 6.
S'ils battent Bayonne, je pense que le plus dur sera fait.
Voilà, c'est ça. Il faut au moins s'assurer que les premiers matchs contre Bayonne, contre Clermont, ils mettent suffisamment de points pour se mettre au chaud. Jusqu'à la fin de la saison régulière.
En tout cas, alors je ne sais pas si ça a été un fait exprès, mais le Stade français a quand même balargué la Champions Cup de manière étonnante. 4 matchs, 4 défaites, éliminé directement toutes les Coupes d'Europe dès la première phase. Je ne sais pas si c'est une volonté de leur part, mais j'ai l'impression que c'est assez intelligent, Denis, parce que cette équipe n'avait peut-être pas la profondeur de banc pour disputer les deux compétitions de la même manière.
Non,
avec les mêmes ambitions.
Effectif, on peut penser qu'ils ont fait l'impasse, même s'ils sont accrochés, mais après, puis ils ont rencontré des belles équipes, il ne faut pas non plus...
Non, mais ils avaient la poule la plus compliquée,
donc...
On avait ouais, ils ont le Leinster, on avait.
Je pense que c'est une époque transitoire pour eux, donc il faut la gérer intelligemment. Je pense qu'ils l'ont vraiment géré intelligemment. Ils sont concentrés sur le top 14 et ça leur sourit aujourd'hui.
Ce qui fait que, je le disais tout à l'heure, ils vont quand même avoir un calendrier assez allégé, mais il faut savoir le gérer aussi, ça, Winnie. C'est pas toujours évident pour garder le rythme avec des équipes qui, elles, vont être plein badin et qui vont jouer à bloc. Comment ils vont s'organiser du côté du Stade français? Je crois qu'il y a des week-ends de développement, de repos presque qui sont programmés. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est la question qu'on aurait voulu aborder avec Laurent Labitte. Mmh. C'est exactement quel est l'accent qui est mis. Est-ce que c'est plutôt sur la régénération en vue des phases finales ou est-ce qu'on va avoir des semaines plus intenses de développement pour arriver à ce pic de forme pour les phases finales, parce que effectivement, tu le disais, Denis, c'est quasiment fait la qualification. Donc maintenant, il s'agit surtout de préparer l'équipe pour traverser cette période-là. Mais effectivement, ils abordaient, Laurent Labitte et son staff, cette volonté d'avoir des moments vraiment de régénération off, plus de temps de repos, mais aussi des semaines avec des entraînements très intenses pour favoriser ce développement.
Mais ce qui est génial, c'est le calendrier qu'ils ont.
Mais ils ont le temps, en fait. C'est ça voilà, qui est magnifique. C'est qu'ils ont le temps.
Mais c'est génial pour eux. Ils ont un calendrier devant eux qui est génial, qui peut permettre de régénérer leur groupe, de palasser le groupe, de couper en pleine saison comme ça. Alors, le seul interrogation, c'est que par rapport au rythme, toujours, c'est les matchs, les entraînements ne remplacent jamais les matchs. Mais bon, ils vont couper quoi, un week-end, voire deux
pendant voilà, la Coupe d'Europe. Ils ont deux week-ends.
Voilà, deux week-ends off.
Ils reprennent le 20 avril.
C'est pas impossible qu'ils jouent un match amical avant la réception de Bayonne. C'est pas incertain. Parce qu'il faut jouer. Il faut jouer quand même. Il faut garder le rythme.
Ouais, je reprends juste sur la poule, effectivement, en Coupe d'Europe, parce qu'il y avait peut-être quand on a eu le tirage au sort de la phase de poule de Coupe d'Europe cette saison, un peu, ils avaient déjà anticipé le fait que ça allait être très compliqué de passer au-delà de la phase de poule. Ils ont quand même joué à Sale. Ils ont reçu Leicester. Ils sont allés jouer au Leinster. Ils ont reçu les Stormers.
Ouais. Oui, c'est mission impossible.
Quand tu vois le tirage au sort, tu peux peut-être te dire bon, on va la jouer.
On va peut-être mettre nos œufs dans le top 14 cette saison, mais au moins, on s'assure d'être.
Mais c'est peut-être aussi, si ça va au bout, ça sera peut-être une leçon à méditer pour d'autres clubs qui veulent souvent jouer sur deux tableaux alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Qui peut jouer sur deux tableaux aujourd'hui?
La Rochelle,
Bordeaux éventuellement et évidemment Stade Toulousain.
Il y a trois équipes.
Peut-être le Racing aussi la saison
prochaine. Enfin le Racing, on l'a vu que quand ils perdaient des joueurs, c'est plus difficile quand même. Hein.
Je pense que ça demande aussi d'avoir parce que là c'est une nouvelle équipe avec un nouveau staff au Racing. C'était peut-être beaucoup en plus d'assumer les doublons qui étaient particulièrement lourds pour le Racing cette saison comparé aux saisons dernières parce qu'ils avaient 5 Français plus Will Rolland, le deuxième ligne gallois qui était parti pendant les Six Nations. Ça fait beaucoup. Mais la saison prochaine, quand tu vois qu'on aura les Tuisova qui seront remis, Colisi, que tu as Owen Farrell qui débarque.
Tuisova, il va revenir.
C'est bientôt, en avril. C'est prévu en avril. Tuisova, Colisi qui avait une fracture au pouce, qui est bientôt remis. Et derrière, voilà, les recrues toujours flamboyantes du Racing. Je pense que avec le Lyon et si
toi tu vois plus le Racing briller dans les années à venir que le Stade Français, on a bien compris. Oui.
moi,
on ne sait pas de quoi sera fait le recrutement du Stade Français.
Ouais, alors il y a certains noms qui circulent,
Carbonel, il y a le nom de Carbonel qui circule, ouais.
Ce qui est sûr, c'est que Joris Segond, l'ouvreur actuel du Stade Français, s'en va à Bayonne. Donc maintenant. Quid de l'ouverture? Qui va pouvoir dans le
mais
temps...
Mais Carbonel, c'est acté. Il va rester jusqu'en 2025 à Montpellier.
Donc en fait, la question, c'est qui?
Il y a le nom de Jalibert qui arrive en fin de contrat.
Alors, tu connais Jalibert?
Non, il a été contacté, effectivement.
Il y a le nom de
Bordeaux en train de renégocier avec lui. C'est une affaire de projet quand même parce qu'il connaît bien Laurent Labitte. Il aime bien Laurent Labitte. Laurent Labitte l'aime beaucoup. Et il se positionne aujourd'hui par rapport à un vrai projet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'argent.
Il faut se positionner sur un vrai projet. Ça veut dire savoir s'il y a d'autres renforts qui arrivent.
Oui,
c'est ça,
à long terme, plus ou moins long terme. Ouais. C'est-à-dire s'il vient au Stade Français, évidemment, il va signer pour 3-4 ans. Donc c'est dans l'optique de gagner des titres, effectivement. Mais il y a aussi l'argent qui rentre en compte.
Je me souviens d'une discussion que tu as eue aussi avec Baptiste Couillou à Lyon. Il y a quelques jours aussi, Denis. Parce que lui aussi, c'est
mais lui, il veut gagner avec son club.
Lui, il est lyonnais, il est gaune par-dessus tout. Donc, tant qu'il y aura un projet solide du côté de Lyon, il restera à Lyon. Mais enfin, il écoute quand même ce qu'on peut lui
dire. Mais Mathieu Jalibert, il n'est pas de Bordeaux, hein. Il est de la région parisienne.
Ouais.
Ouais. Alors attention, pas, parce qu'après, Laurent Labitte, ça c'est l'une des promesses aussi qu'il a faites en arrivant au Stade français, c'est d'arrêter d'aller chercher partout les stars de notre championnat ou des championnats étrangers et de miser beaucoup plus sur la formation. Donc il a ciblé en arrivant une quinzaine de hauts potentiels qui sont des joueurs du centre de formation et qui veut faire basculer beaucoup plus rapidement que d'habitude avec les professionnels. Donc il va aussi vraiment aller puiser dans des ressources que nous ne connaissons pas nous encore parce que qui n'ont pas brillé au niveau professionnel, mais on s'attend à voir un petit peu plus de jeunes du cru débarquer et peut-être un peu moins de recrues.
Bah après, moi je pense quand même qu'on parle de stars, oui, mais moi je pense que ce club a besoin de stars. Il a besoin de lumière.
Ça fait partie de l'ADN,
absolument, de l'ADN de ce club. Tu es obligé, peut-être pas en avoir 4-5 comme à Toulouse
ou à Bordeaux.
4-5, ils en ont 10 à Toulouse. Ouais. Mais, ou à Bordeaux. Mais aujourd'hui, quand tu compares justement Bègle ou le Stade Toulousain, le Stade français, tu n'as pas de stars aujourd'hui. Tu n'as pas de stars.
Bah, t'as Rory Cocotte.
Mais c'est pas une star,
c'est un choix.
Non,
tu
mais ça a été un grand joueur.
Barré qui va peut-être devenir.
Mais je veux dire, non, mais aujourd'hui c'est pas Mathieu Jalibert, Antoine Dupont ou Romain Tamac.
Non.
Je veux dire, faire venir Jalibert, c'est intelligent dans l'optique de faire venir du monde au stade, puis au niveau compétitivité. Excuse-moi, si Mathieu, ça peut être aussi le déclencheur d'un nouveau Stade Toulouse.
Non, mais il y a peut-être Bisby là. Je sens que Denis va participer.
Non, je ne participe pas du tout. Mais je pense ça sera compliqué parce que je pense que Marty va faire l'effort et je vois pas comment Marty fera.
Bah, je veux dire, Bordeaux a aussi un projet.
Des arguments,
ils ont fait
venir
du monde, ils ont fait venir Penaud. C'est pas pour laisser partir Jalibert comme
mais
ça.
Mais bon, après c'est le jeu des transferts, des mutations et ça bataille. Et puis Mathieu, il a quel âge? Il a 25-26 ans aujourd'hui. Donc il est plus dans la projection d'un projet de fin de carrière que de début de carrière. Donc c'est une vraie réflexion qu'il doit mener. Ou il reste à Bordeaux et à ce moment-là, il va finir sa carrière à Bordeaux. Ou alors, il s'en va vers de nouveaux horizons, tenter une nouvelle aventure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il ait choisi. Ouais. Je pense qu'il est en plein doute.
En tout cas, ce n'est pas les sous qui manquent à l'actionnaire du Stade français. Le docteur Wild est un milliardaire, l'un des plus gros milliardaires du top 14. Je veux dire, s'il a envie de mettre des sous sur la table, il les mettra. Il l'a fait depuis le début.
Tu as le salary cap, donc tu ne pourras pas faire n'importe quoi non plus.
Le Stade français est considéré comme le plus gros budget. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais l'année dernière, il était considéré comme l'un ou deux des deux premiers budgets du
Le premier,
14, sans avoir de véritable star. C'est ça qui est un peu étonnant, mais bon.
Mais en fait, ça leur réussit, donc on ne va pas leur taper dessus. Hein. Ils sont premiers du championnat. Mais je pense que Laurent aussi a cette vision des choses, Laurent Labitte, de mettre quand même des vedettes, des joueurs qui peuvent porter le projet un peu plus loin.
A priori, ce serait plutôt le Stade Toulouse, un premier plus gros budget, et derrière, effectivement, le Stade français.
Ouais, nous verrons si effectivement le Stade français est capable de réaliser tout ça. Il y a eu des tensions quand même au sein de l'équipe, notamment avec Karim Ghezzal, entre Karim Ghezzal et les joueurs.
Essentiellement, c'est sa personnalité qui a un peu cristallisé les débats. En coulisses, ce qu'on a cru comprendre, c'est que suite à la défaite à Pau en début de saison, en match aller, il y a eu une partie des joueurs qui, contre l'avis du staff, est sortie. Au cours de la soirée, ça s'est un peu échauffé entre notamment le troisième ligne centre Abel Köfner et un ancien et un membre du staff palois. Et derrière, comme ça a fuité dans la presse, il y a eu beaucoup de par médias interposés.
Oui, alors qu'il n'y a pas grand chose en coulisses, il n'y a pas grand chose.
Bah non, il n'y a peut-être
presque rien.
Mais quand même, Karim Ghezzal a suffisamment rabattu autour de lui pour comprendre exactement qui avait parlé, qui avait dit quoi sur lui. On sent qu'il y a eu un moment.
L'ordonnateur, c'était quand même Laurent Labitte qui a remis de l'ordre dans la maison.
C'est quand même le patron.
Non, mais en plus, moi, quand je parle avec lui, il a un recul sur les choses. Il est extraordinaire, Laurent. Il ne s'affole pas, il est posé.
Il commence ça à pas rouler sa bosse.
Et puis, il te dit aujourd'hui qu'il n'y a aucun problème, que tout roule, qu'il y a une super ambiance, et je le crois. J'en suis sûr. Donc, on le sait par Thomas.
Bien
sûr, la crispation, elle vient aussi du fait que
tu as
du mal.
Puis,
c'était le début, c'était un après-Coupe du Monde aussi, c'était pas évident pour eux. Ils n'avaient peut-être pas digéré aussi la défaite, que ce soit Ghezzal ou Labitte. Donc, il a fallu quand même, tu vois, de rentrer dans un système. Et quand tu vois que ça c'est dur, que ça patine un peu, il y a eu quelques crispations, mais après quand ça gagne, regarde aujourd'hui.
C'est toujours facile quand ça gagne.
Ce choix de Labitte d'aller au Stade français, c'est un choix par dépit ou c'est un
choix? Non, c'est un vrai projet.
Parce que son nom avait aussi été évoqué pour éventuellement prendre la succession de Fabien Galthié si celui-ci n'avait pas voulu replonger pour 4 ans.
Laurent, ce qui lui manquait, c'était un travail au quotidien. Il a travaillé à Castres pendant des années, au Racing, et l'équipe de France, il a adoré cette période, mais ce qui lui manquait, c'est d'être au quotidien dans une équipe, d'avoir un vrai projet avec une vraie équipe. Donc quand Thomas Lombard lui a proposé le projet, il a sauté dedans, sur l'aventure, parce que c'est ce qui correspondait à ce qu'il voulait, à ses intentions, le sens qu'il voulait mettre dans sa vie, et il est très heureux aujourd'hui. Voilà. Il a le plein pouvoir, c'est lui qui dirige le sportif dans toutes les sections d'ailleurs. Hein. C'est lui qui s'occupe
il est directeur du rugby. Moi, je l'ai vu avec les joueuses aussi.
Absolument.
Il est investi avec les Parisiennes, il suit ce qu'elles font. Donc c'est un vrai directeur du rugby, du club.
Puis ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a un discours extrêmement positif. C'est-à-dire que moi, je me régale, après les matchs, on parle des heures ensemble. Et c'est un gars qui est incroyable parce qu'il est positif de tout. En fait, donc il est conscient de tout ce qui peut ne pas aller, mais en même temps, il reste pas dessus, quoi. Tu parles des joueurs, il est très à l'aise avec les joueurs, avec ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Tu vois, je parlais de Léo Barré. Donc Léo Barré, depuis un moment, il le voyait à l'arrière, il le voyait pas à l'ouverture, et puis d'un coup, ça a payé. Donc il a une vision du rugby qui est profonde. Moi, je pense que ça fait partie des meilleurs entraîneurs aujourd'hui, en français.
Laurent Labitte, donc directeur du rugby, même s'il a un peu quitté le terrain aujourd'hui, obligé de prendre un peu de recul et obligé de prendre de la hauteur.
Non, il est quand même écarté du terrain.
Il délègue pas complètement, évidemment, quand tu as été entraîneur pendant des années, avec succès. On rappelle la montée avec Montauban, il était associé à Tonto Travers à l'époque, la victoire avec Castres, la victoire avec le Racing. Il a enfin donné un titre au Racing qu'il attendait depuis tant d'années. Et puis le Grand Chelem avec l'équipe de France, même s'il n'était qu'adjoint, il a quand même réussi. Est-ce que vous voyez le Stade français lever le bouclier de Brady?
Il a gagné partout, Laurent.
Oui.
Donc il va continuer à gagner.
Je suis d'accord. Mais
il leur faudra gagner 2 matchs. Je pense qu'ils iront en demi-finale sans problème directement. Donc après, c'est commencé. Ouais. Demi-finale, ça veut dire qu'ils éviteront.
Éviter de prendre Bordeaux-Bègle en demi-finale.
Non, ils éviteront Toulouse. Ce qui est pour moi
Mais je pense qu'il faut éviter Toulouse et Bordeaux à la maison. Hein.
Attention, il y a La Rochelle aussi. Tu peux prendre La Rochelle
en demi-finale.
C'est
pour ça.
C'est quoi la peste?
Et Toulon, attention.
Cette année, il faut surtout éviter le Stade Toulouse.
Attention. Et Toulon aussi.
En demi-finale.
À un moment, on ne peut plus les éviter.
Donc en demi-finale, a priori.
N'oubliez pas Toulon.
Bordeaux, La Rochelle, Toulon. Le Racing. Bordeaux, La Rochelle, Toulon, le Racing. Est-ce que ces 4 équipes, le Stade français peut les battre?
Oui.
Avec effectif
Le Racing,
plein.
Oui. Toulon, je pense que oui. Moi, ça va se jouer surtout entre, à mon avis, face au Stade Toulousain.
La Rochelle, La Rochelle, ça serait un peu compliqué, il me semble. Après Bordeaux, ça sera sur leur terre. Moi, je pense que le pire de tout, c'est Toulouse.
Ouais.
Prendre Toulouse en demi-finale.
Ah mais non, mais a priori Toulouse, enfin c'est pas
non, mais
gagné,
vraiment
mais...
pas. Ouais.
Si on reste à l'instant T, Stade Toulousain recevront leur demi-finale respective, et puis après reste à voir qui sera en face. Mais ils seraient à domicile respectivement, ils ne se croiseraient pas en demi-finale. Maintenant effectivement, tout est toujours serré.
D'ailleurs,
il me semble
on
qu'ils
pourrait
ont
faire
que 3 points devant Stade Toulousain.
Un point aujourd'hui sur l'état de demi-finale.
Ah
c'est
ben, regarde, donc t'as 3e le Racing, 4e Toulon, 5e La Rochelle et 6e Bègle.
Aujourd'hui,
donc t'aurais Toulon, Bordeaux-Bègle et
Racing.
Racing, Bordeaux-Bègle et Toulon, La Rochelle. En barrage.
Chaud, hein,
barrage.
Toulon-La Rochelle.
Toulon-La Rochelle.
Moi, je vois.
Mais attention, La Rochelle, parce qu'ils ont un calendrier. Je pense que La Rochelle va monter. D'aller chercher la 3e place au Racing.
Ouais. Bref, on verra ça. En tout cas, c'est une fin de saison à suspense qui nous attend, mais il va falloir attendre quelques semaines justement pour que le top 14 reprenne ses droits, puisque les 2 prochains week-ends seront consacrés à la Champions Cup et que donc le Stade français sera en vacances pendant 15 jours, en vacances ou en régénération, puisque c'est comme ça qu'on dit désormais. Merci Denis.
Coup de chapeau quand même à Perpignan. Hein. Je suis désolé.
Alors, on devait aborder
on
le
devait,
cas
mais
Perpignan.
Quand même, on est obligé de le dire et de les féliciter. Parce
9e aujourd'hui.
Ils ont mis 40 points quand même chez eux il y a 2 mois. Une grosse équipe, je ne sais plus laquelle. Mais
quoi, ce week-end?
Mais ce week-end, ils ont encore fait des ravages chez eux.
Il y a deux mois.
Ils sont à la 9e place à 44 points.
Ce week-end,
40 points à Castres, ils ont mis.
Ouais.
Alors attends, il y a deux mois, on perdra ça.
Et je vois pas comment Perpignan va. Je pense qu'ils sont sauvés.
Eh ben, on en parlera de cette USAP qui régale. À la différence de Montpellier qui commence à se faire du souci, ouais. Qui n'est pas une équipe qui a en plus l'habitude de jouer le maintien, en tous les cas pas depuis quelques années. Ça va être compliqué.
Je les vois pas éviter le barrage.
Tu les vois pas éviter le barrage. Et puis le barrage, on sait que ces derniers temps, il est quand même plutôt favorable.
Mais il est à l'extérieur. Hein.
Aux équipes de Pro D2 qui
sera un match.
On verra ça, en tous les cas, cette fin de saison. On s'annonce patiemment. Merci Denis, merci Willy. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre les poteaux. Bonne semaine, ciao.